Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI, où nous allons vous parler de cette finale de Ligue Europa qui vient donc de s'achever. Les Blues heureux à Bakou, Chelsea a soulevé la lourde coupe de la Ligue Europa face aux Gunners. Chelsea a assommé Arsenal en deuxième mi-temps en battant ses adversaires par 4 buts à 1, notamment grâce à un super Eden Hazard, auteur de 2 buts et d'une passe décisive, et aussi un super Olivier Giroud, meilleur buteur de cette compétition. Les Gunners ont perdu pied, ont raté leur finale. Maudit les Gunners, un cauchemar pour leurs nombreux supporters qui les avaient suivis si loin en Azerbaïdjan. On va revenir sur ce match. On évoquera aussi dans Radio Foot la CAN, qui se prépare. Les listes des joueurs sélectionnés apparaissent, notamment celle de la Côte d'Ivoire qui partira en Égypte sans Gervinho. Et puis, si nous avons encore un peu de temps, nous parlerons de Neymar. Neymar déchu de son titre de capitaine et surtout Neymar qui se blesse souvent désormais. Et pour évoquer ces sujets, Patrick Juillard, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Merci de nous être fidèles à cette heure tardive à Paris.
C'est toujours un plaisir.
Quand on suit les finales comme ça ensemble, c'est...
On est encore dans le match.
Voilà, il y a de l'ambiance et ça permet de prolonger ça dans l'émission. Bonsoir Nabil.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Nabil fidèle aussi. Et puis un invité surprise ce soir pour certains de nos auditeurs avant qu'il ne reparte vers son pays demain. Séga Diallo, notre confrère de Guinée. Bonsoir Séga.
Bonsoir Annie et bonsoir aux auditeurs de Radio Foot.
Merci de vous joindre au duo de choc qui anime les soirées de Radio Foot, les soirées tardives de Radio Foot International. Et justement, retour tout de suite sur cette finale qui se termine un peu sévèrement pour certains adversaires, mais qui se termine en apothéose.
C'est à plus de 4000 km de Londres, à vol d'oiseau, que Chelsea et Arsenal s'affrontent en finale de l'Europa League à Bakou. Anderson est à terre. Kovacic va retrouver le Belge, Hazard, Pedro, ça fait deux, ce duel 100% londonien tourne pleinement à l'avantage des Blues. Pedro, oh, Milton Knight, la penalty, là ça tourne au cauchemar pour Arsenal, ça vire à la catastrophe. Eden Hazard face à Petr Cech, le contre-pied, ça ne pouvait pas se passer autrement. Pouvait-on imaginer Eden Hazard s'en aller de Chelsea sans laisser son empreinte dans cette finale en guise d'adieu? C'était impossible. 3-0.
Encore une fois renvoyé. C'est raté.
Oh, elle est belle! Elle est très belle! En quelle entrée! Hugo Bull! Quand on vous disait que cette finale était loin d'atteindre sa conclusion, la preuve, 69e minute! Et Alexis Wobi fait se lever les supporters des Gunners qui d'un coup reprennent totalement espoir.
Oh, ce ballon. Oh, il a voulu.
Eden Hazard est touché par la grâce. Le doublé pour l'international belge.
Et c'est terminé.
6 ans après, Chelsea remporte une nouvelle fois l'Europe.
Une coupe qu'ils vont ramener à la maison, une coupe qui pèse 15 kilos mais qui devait paraître bien légère au capitaine César Azpilicueta et à Gary Cahill qui l'ont donc soulevée sur cette pelouse dans les cris et la joie d'une finale donc gagnée sur les joueurs adverses d'Arsenal. C'était donc dans le stade olympique de Bakou. Alors Patrick Juillard a pris une première mi-temps peut-être un peu qui s'est tirée un peu et qui était pas passionnante. Tout d'un coup, Chelsea a été très très tranchant puisque à peu près en 15 minutes, il y a eu 3 buts.
Voilà, le match était plié à l'heure de jeu, quoi, quasiment.
65e minute.
C'est ça. Donc c'est Chelsea a accéléré quand il le fallait déjà en première mi-temps. Alors vous avez raison de dire que c'était pas folichon avant la pause, mais on sentait déjà que Chelsea avait quand même un soupçon de précision et de...
C'était tranchant.
Et de tranchant Chelsea... en plus. Quand ils attaquaient, c'était plus rapide, c'était plus menaçant et ils cadraient davantage, mais c'était resté dans des limites contenables par Arsenal. Et ensuite, le verrou a totalement sauté au retour des vestiaires parce que il y a quand même des joueurs qui ont été à leur niveau. Arsenal, beaucoup de joueurs ont raté cette finale. Ce sont deux équipes qui se ressemblent avec quelques jeunes et beaucoup de vieux briscards, et ceux de Chelsea étaient largement au-dessus. Bon, Hazard, bon, j'oserais pas le qualifier de vieux briscard, mais c'est quand même un joueur qui a de la bouteille, qui a de l'expérience.
7 ans à Chelsea.
Il a su la faire parler comme un grand champion au meilleur moment en faisant quasiment un récital technique. Giroud, il faut reconnaître que même si on a pu le critiquer au moment de la Coupe du Monde dans un autre schéma de jeu, là, dans une équipe qui lâche les chevaux, il a fait ce qu'il savait faire, c'est-à-dire être précis face au but avec une tête plongeante quand même pas donnée
incroyable,
à tout le monde.
Le premier but et puis une passe décisive
et puis
ensuite.
Passeur décisive et ensuite il obtient un penalty, donc bon, c'est quand même
beau
très
bilan.
Costaud. Et puis toute l'équipe, le milieu de terrain aussi, bon, c'est les travailleurs de l'ombre, mais des joueurs comme Kovacic par exemple ont été vraiment excellents à la manœuvre. N'Golo Kanté, pour un joueur qui était incertain qu'on avait quasiment donné pour forfait, on peut dire qu'il a pas donné sa part au chien et globalement Chelsea n'a pas volé sa victoire.
Ouais. Vous êtes d'accord, Sega, une victoire logique des joueurs des Blues de Chelsea?
Oui, logique à partir du moment où Arsenal, en première période, perd pied. Après le
première mi-temps, il dominait, en tout cas, mobilisait la balle.
La demi-heure, ils sortent du match, ils laissent l'initiative
surtout
à Chelsea.
Surtout, ils n'ont pas conclu quand ils auraient pu aussi.
Ils ont eu des opportunités, même si c'était pas vraiment des occasions franches.
C'était pas hyper net. Ouais.
Voilà, donc je pense que le talent a parlé et c'est tout à fait logique que Chelsea. Maintenant, le score, il est un peu sévère, à mon avis. Ils ont été hyper efficaces à cette équipe de Chelsea. Mais Arsenal s'arrête face à la
plus
meilleure.
Fort. Quoi, ouais, plus fort qu'en tout cas, on l'a vu en première ligue déjà. Nabil, pour vous, une finale, d'abord avec du spectacle, finalement, même si on a attendu un peu. Et cette victoire des Blues, une récompense quand même pour leur saison.
Oui, une récompense. On a vu pourquoi Arsenal n'avait pas terminé finalement dans les 4 premiers du championnat d'Angleterre. Il faut le rappeler, elle a échoué au pied du podium. Autant c'est une équipe qui peut être spectaculaire, intéressante, avec une attraction à vente, Aubameyang, Lacazette, qui a été en échec ce soir, qui sait parfois la différence, faire la différence. Mais en première mi-temps, quand ils ont joué, ils ont eu des situations, ils n'ont pas réussi à contourner ou à peser sur cette défense des Blues. En deuxième mi-temps, Chelsea, c'est une équipe qui cette saison a souffert avec des hauts et des bas, mais qui a su à chaque fois rebondir. Ça a été sur un fil et c'est finalement à l'image de sa saison, c'est finalement les acteurs qui ont pris possession et acte de ce match. Alors Sarri effectivement sur le banc, qui a fait un 4-3-3 habituel avec son Jorginho en sentinelle meneur de jeu, mais voilà, les joueurs qui ont pesé, Patrick en a parlé, c'est Eden Hazard et Olivier Giroud effectivement, qui a été fantastique sur cette campagne éliminatoire, c'est avec l'équipe de France, sur cette campagne d'Europa League. Pour moi, Arsenal a été confronté à ses limites, parce qu'il y a quand même des limites à tous les étages. En défensivement, le 3-4-1-2, c'est très bien pour jouer sur les côtés, mais c'est également très bien pour se faire prendre sur les côtés par des joueurs comme Willian ou Hazard. Et ensuite, Olivier Giroud, vous avez raison de le rappeler tout à l'heure, le premier but, il débloque tout, ce fantastique déplacement et cette tête plongeante au premier poteau, qui était toute extrêmement compliquée à réaliser. Pour moi, ce soir, c'est la meilleure équipe qui a gagné.
On s'inquiétait un peu d'ailleurs de ce championnat qui s'était terminé il y a 3 semaines. On se demandait si les équipes seraient en forme. On n'a pas eu l'impression que ça avait joué négativement, Patrick.
Je pense que
ce soir,
elles se sont bien reconcentrées sur
au
cet événement.
Hein,
ce qui a pu gêner.
Mais voilà, c'était plutôt du côté d'Arsenal où on
les
savait que, voilà, qu'il y avait des absents. Et dès le début du match, vous le disiez, ça va compter.
Ça va
porter préjudice. On l'avait dit aussi dans Radio Foot cet après-midi, on pensait que ça porterait préjudice aux Gunners, des absences essentielles.
Ramsey, qui est quand même un joueur qui apporte un liant et une qualité technique,
Ramsey, surtout,
qui a fait défaut. Et puis Mkhitaryan.
Blessé. Alors lui, il est blessé. Il n'a pas pu finir la saison.
Il sera à la Juve l'année prochaine, qui a flairé la bonne affaire. Et Mkhitaryan, alors lui, il fait pas une excellente saison. Il est moins constant, mais malgré tout, tout le débat autour de son absence, ça a vraiment pollué.
On le rappelle, vu qu'il est international arménien, vu que c'est une star dans son pays, et que ce pays et l'Azerbaïdjan ont des conflits pour le moment surtout géopolitiques. Et bien finalement, il avait préféré ne pas venir. L'UEFA attribuant cette décision uniquement aux joueurs, mais en tout cas, il n'était pas là. Et c'est vrai que
tout ça a quand même parasité, je pense, la préparation d'Arsenal. Alors évidemment. J'espère qu'ils s'en serviront pas comme d'une excuse, parce que sur le match, il y a deux classes d'écart et il y a rien à dire.
En deuxième mi-temps, surtout.
Voilà, oui, sur l'ensemble du match, disons, et pas sur la première mi-temps. Mais effectivement, ça a pas aidé, quoi. Ça a pas aidé. Maintenant, encore une fois, l'écart est trop grand pour qu'on puisse dire que tout s'est joué sur l'avant-match. Le match, les Gunners ont perdu ce soir sur le terrain.
Il y avait un match dans le match. Alors, on parlait notamment de certains attaquants. L'un contre l'autre, on pensait à Giroud face à Lacazette, ou alors Eden Hazard face à Pierre-Emerick Aubameyang. Mais il y avait aussi ce face-à-face entre deux entraîneurs, notamment Emery, qui l'a déjà remporté trois fois compétition. Est-ce que ce soir, il a été en dessous je dirais du défi, où Sarri était vraiment trop fort, lui qu'on appelle le professeur. Comment vous voyez
il a pris
ça,
une leçon. Alors si on s'arrête au score, vous avez raison, le professeur a donné une leçon, mais il n'a pas donné une leçon à un élève, puisque vous rappelez également à juste titre que Emery est un spécialiste de la compétition et notamment de l'Europa League, ce qui a fait la faillite d'Arsenal, c'est l'inefficacité de ses joueurs offensifs ce soir. Les perdants, je le répète ici, je sais qu'on l'aime beaucoup du côté du Gabon, mais Aubameyang et Lacazette.
Pas que là-bas.
Pas que là-bas, mais je sais qu'on l'aime beaucoup en règle générale, mais
évidemment.
Surtout au Gabon.
Mm-hmm.
Mais ce qui a fait aujourd'hui l'échec d'Arsenal, c'est ce duo en fait qui avait porté pendant toute la compétition.
Ils avaient marqué les 7 buts des demi-finales. Hein.
Ce soir, ils ont été mis en échec. Ensuite, je trouve également qu'Emery a fait des changements un peu tardifs.
Iwobi aurait pu rentrer avant.
Après,
Iwobi, c'est celui qui marque le but.
Sarri, le scénario lui a été favorable.
Sans les excuser, je pense qu'ils ont manqué aussi de bons ballons.
Oui.
On le notait pendant le match.
Vous voulez dire que Ozil ne
l'équipe
pas.
Était un peu coupée. À Ozil, voilà. On s'aperçoit à peine maintenant qu'il a joué. Je sais pas.
C'est une catastrophe, Ozil. C'est plus le joueur.
On l'a perdu.
Oui, ça fait longtemps. Mais c'est vrai que les attaquants, bon, quand on dit ils n'ont pas tenu leur rôle, mais non plus ils n'avaient pas de ballon, c'est ça.
Ils n'ont pas été ravitaillés comme il le fallait. Et je pense que l'entraîneur a manqué
de réactivité.
Il aurait dû prendre des risques sur ce match-là parce qu'il n'avait pratiquement rien à perdre. En début de match, on a vu que Chelsea était méfiant, qu'ils avaient peur de cette vitesse-là, de cette paire offensive. Et malheureusement, ils ont su les contenir en restant derrière.
Après, dès qu'il y a eu le premier but, de toute façon, ensuite, ils ont couru derrière le score. Les espaces se sont libérés, donc le bloc était moins compact du côté d'Arsenal. Et quand vous dites
ils ont volé en éclat, après.
Quand vous dites des espaces, vous dites des intervalles. Et quand vous dites des intervalles, vous dites Eden Hazard, tout simplement.
Et vous êtes sympa, Nabil, quand vous parlez d'espace. Moi, je serais plus proche de parler de boulevard. Hein, parce que pour moi, ils ont volé en éclat. Dès qu'ils ont vraiment manqué de... Enfin, ils ont lâché l'affaire trop vite, je veux dire, c'est une finale, on doit tout donner, au premier but, c'était fini.
Mais ces gars, justement, on évoquait aussi avant la finale, un des points faibles, alors si Arsenal, on connaissait son duo d'attaquants qui pouvait être redouté, mais on savait que le point faible de cette équipe des Gunners, c'était aussi sa défense qui, malheureusement, peut prendre énormément de buts et tout d'un coup flancher.
Oui, je pense que les profils dans cette défense un peu l'expliquent. Bon, nonobstant le jeune défenseur anglais dont Maitland-Knight qui malgré le penalty provoqué a quand même sorti un match
honorable,
mais que ça soit Sokratis ou
Kolciani,
c'est assez limite. On a vu qu'ils ne sont plus dans à ce niveau-là de la compétition, ils ne peuvent plus tenir 90 minutes sans rester concentrés.
Et encore, Cech a fait deux trois arrêts qui étaient
une
pas
dernière
il aurait ils auraient pu sur l'efficacité pure Chelsea était tellement au-dessus qu'ils auraient pu gagner avec plus d'écart alors que dans le jeu sur l'ensemble du match c'est pas si énorme mais l'efficacité mais il y a une équipe qui a fait une finale parfaite et l'autre qui est passée totalement à côté. Quoi. C'est criard quoi, la différence.
En tout cas, pour le propriétaire de ce club de Chelsea qui était pour une fois dans les tribunes, puisque Roman Abramovich ne peut plus vivre en Angleterre, donc ne voit plus son équipe au quotidien. Mais là, il était dans les tribunes à Bakou. C'est la troisième coupe européenne. De la décennie. Ce sont deux coupes de Ligue Europa. Oui. Et il y avait eu cette... Ligue des Champions en 2013.
12, la Ligue des Champions.
Pardon, 2012 et 2013, la Ligue Europa avec Benitez à l'époque.
C'est une séquence absolument réussie. Après, on peut avoir des réserves sur le propriétaire de Chelsea pour des raisons. On parlait de géopolitique tout à l'heure, mais peut-être de politique économique. Parce qu'on rappelle que c'est un oligarque. On peut avoir des réserves sur sa manière de gagner sa vie. Maintenant, si on parle de football...
Oui, il y a aussi pas mal de problèmes au niveau diplomatique entre l'Angleterre et la Russie.
Oui, tout à fait. Maintenant, si on parle de la séquence avec Chelsea, depuis qu'il est arrivé, il a investi beaucoup d'argent, il a mis du temps à gagner, mais il a fini quand même par gagner. Il y a des grands joueurs qui se sont succédés, Drogba, Hazard... Et j'en passe. Je pense que autant pour Eden Hazard, la boucle est bouclée, autant pour Abramovich, peut-être qu'aussi la boucle est bouclée avec ce succès en Europa League.
C'est-à-dire?
Il va peut-être revendre le club et partir. Ouais. On sait qu'il y a des problèmes.
Ça fait partie des rumeurs, effectivement, qui existent. Ça donne ses lettres de noblesse à cette équipe de Chelsea, finalement, je dirais, ces gars, parce qu'on sait que quand Roman Abramovich achète ce club, ce n'est pas encore un club donc qui est apparu sur la scène européenne aussi brillant et qui a non plus pas eu des grands joueurs. Et ces dernières années, c'est des titres de champion d'Angleterre, c'est des grands entraîneurs aussi. On pense à Mourinho, bien sûr.
Conte aussi.
Antonio Conte.
Oui, Villas-Boas. Clairement, il a transformé cette équipe qui bien sûr, sur la place de Londres, essayait d'exister. Mais là, au niveau européen, c'est une des places fortes, puisque financièrement, ils peuvent rivaliser pour acheter les meilleurs. Notamment, ils ont eu Hazard, ils ont des jeunes. Ils refusent même de vendre certains jeunes comme... l'excentré
Hudson voilà, qui est désiré par le Bayern Munich,
voilà, où ils ont fait des offres assez mirobolantes, mais bon, donc ça veut dire que maintenant c'est une équipe qui peut refuser des offres et qui peut exister. S'il part, il laisse quand même un patrimoine important à cette formation.
Oui.
Et celui qui reprend l'équipe peut bâtir sereinement.
Oui, et ils ont 70 joueurs sous contrat, dont une quarantaine sont prêtés à droite, à gauche, au Vitesse Arnhem et dans d'autres clubs un peu satellites. Donc il y a un vrai capital joueur. Donc effectivement, si Chelsea est revendu aujourd'hui, il y a un petit trésor à ce niveau-là.
Ça, surtout, en plus, ce capital joueur risque peut-être de bien les arranger la saison prochaine parce qu'ils sont interdits de recrutement. Voilà, ils sont interdits de recrutement et comme ils vont perdre Eden Hazard, alors Eden Hazard, on va l'écouter au micro de nos confrères de RMC Sport que vous entendiez tout à l'heure dans le résumé puisque ce sont eux qui retransmettent le match en France. Écoutons Eden Hazard au micro d'RMC.
Pendant 7 ans, il y a eu des hauts, il y en a eu quelques hauts, il y a eu quelques bas aussi. Mais le plaisir de jouer au foot, il est toujours là. Donc en plus, après, quand on gagne des trophées, c'est toujours bien. C'est bien pour le club, c'est bien pour les fans, c'est bien pour le staff, pour les joueurs. Donc voilà, ce soir, on est content. Je suis pas quelqu'un de très émotif déjà à la base. Et je pensais juste à gagner le match, tout simplement. Voilà, je pense que voilà, j'étais content de marquer, bien évidemment. Mais encore une fois, si j'avais pas marqué qu'on avait gagné le match, j'aurais été tout aussi content. Donc pour moi, un bon match, c'était un match qu'on gagne. Voilà, après là, j'ai la chance de marquer 2 buts. Mais bon, je retiens ce qu'on a fait collectivement.
Eden Hazard, donc, c'était sans doute son dernier match. On l'attend côté du Real Madrid. On l'attendrait même dès lundi. Donc, on lui donnera à peine le temps de souffler et de faire ses bagages. Mais en tout cas, c'est une... Alors, c'est pas la Ligue des Champions, mais c'est quand même un final en apothéose, Nabil.
C'est un des acteurs majeurs avec Giroud de cette finale. Il quitte Chelsea, puisque disons-le clairement, il va signer au Real Madrid et c'est quelque chose qui est acté depuis un moment. C'était le désir de Zinedine Zidane et du joueur également. Il termine sa séquence, moins du moins son épisode à Chelsea, franchement, de manière brillante. Il est arrivé en 2012, cette saison. Un joueur absolument exceptionnel, souvent double-double, c'est-à-dire plus de 10 passes décisives, plus de 10 buts par saison. Il soigne sa sortie ce soir avec un doublé. Il qualifie également en championnat Chelsea en Ligue des Champions. Il lui aura manqué finalement qu'une Ligue des Champions avec Chelsea pour faire le grand 8 en en quelque sorte, mais effectivement c'est un joueur qui est pour moi dans les légendes, qui fait partie des légendes des Blues au même titre que Didier Drogba, Lampard, Terry ou Zola.
Ouais, quand il est arrivé, on se souvient, il arrivait de Lille, hein, il était champion de France avec l'équipe de Lille. Ségara, racontez-nous, vous l'aviez vu très très jeune, Eden Hazard, et déjà vous aviez repéré un joueur complètement différent.
Je pense qu'il devait avoir 14-15 ans, il était formé à Lille, réserve. Mm-hmm. Et donc quand je venais un peu suivre Souleymane Youla, qui est un ancien international guinéen qui jouait au LOSC.
Attaquant très rapide.
Et donc moi je perdais du temps.
C'était Youla comme hasard, quoi.
Voilà. Donc je venais perdre un peu de temps avec les jeunes à les suivre, et j'ai été subjugué par son talent, sa maîtrise, sa facilité à éliminer, parce qu'il s'entraînait avec un peu plus grand, des joueurs de 17 ans, 18 ans,
surclassé.
Voilà, et rapidement il est monté en équipe réserve et dans l'équipe première.
Il avait déjà quelque chose de différent.
Non, c'était, on sentait qu'il avait quelque chose et il avait confiance en lui, c'est-à-dire que sur le contrôle, sur la prise de balle, tu te disais non, là c'est un champion. Et aujourd'hui, je n'en doute pas que voilà, c'est une consécration. Le Real, c'est parfait, c'est le bon moment, c'est le bon coach pour lui. Zidane, c'est
il
quelqu'un
parle
qui
parle le
sait,
même football. Voilà. Hein. Les deux.
Oui, ouais. Puis ça va être intéressant de le voir avec Benzema, avec éventuellement Modric, avec Gareth Bale s'il reste, avec Vinicius. Il va être dans un autre collectif, un collectif beaucoup plus puissant. Et puis il sera attendu là où finalement on a encore des réserves sur lui, même si moi j'en ai pas à titre personnel. Mais tout le monde dit, bon, ça reste un petit peu insuffisant en Ligue des Champions. Moi, pour moi, Eden Hazard, aujourd'hui, c'est un des 5 meilleurs joueurs de la planète, sans problème, sur les 5 ou 6 dernières saisons. On l'a vu à la Coupe du Monde, il n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais c'était le meilleur joueur du Mondial.
En tout cas, sur la page Facebook de l'émission, David Finzel vient de me passer certaines de vos réactions. Et alors vraiment, tout le monde est enchanté pour Giroud. Giroud, même si mes Gunners ont perdu, je ne peux pas être triste quand Giroud gagne, écrit Elisabeth Delphine. Il y a aussi François-Xavier qui écrit « On a beau critiquer Giroud, le gars continue son bonhomme de chemin. Vraiment, éloge à notre ami Giroud. » Quelqu'un note alors une nouvelle importante pour le football français, Bill Pocam, qui dit bravo à l'OL qui est qualifié directement en Ligue des Champions l'année prochaine. C'est vrai que c'était un peu l'histoire la conséquence indirecte pour les Lyonnais. Patrick, du coup, il se retrouve directement qualifié sans les barrages.
Et comme on dit, la pièce retombe du bon côté, où le Jean-Michel et Bruno retombent sur leurs pattes, hein, pour parler vulgairement. Non, bravo à Lyon, ça sauve un petit peu une saison mi-figue mi-raisin. Et finalement, ils réussissent le mieux, c'est la Ligue des Champions. C'est-à-dire, c'est en Ligue des Champions qu'ils ont donné les plus belles émotions à leurs supporters. Et là, grâce à ce match de Chelsea, ils vont la retrouver directement sans passer par un barrage incertain. Donc bon, tant mieux. Ça va aussi donner peut-être des assurances supplémentaires au nouveau staff, qui va pouvoir davantage attirer des joueurs. Hein. Oui, il aura un argument de plus et il aura peut-être des petites rallonges pour recruter. C'est positif, après, à Lyon, de ne pas gâcher cette belle occasion.
Ça veut dire aussi 20 millions dans les caisses, et ça veut dire aussi que vous pouvez laisser partir Ndombele ou Mendy plus facilement, par exemple. Ça veut dire aussi ça du côté de Lyon.
Mmh, pour évidemment penser à les remplacer. On va entendre un joueur de l'effectif de Chelsea, un autre des vainqueurs de ce soir, des champions d'Europe. Donc, il s'agit de David Luiz. Alors, David Luiz, ancien Parisien, et un Parisien qui soulève une Coupe d'Europe.
Ça a été une année trop dure, trop difficile pour nous. On a été des moments bien et des moments pas faciles aussi. Donc, je pense qu'on a fini très bien. On a fini qu'on a tient posé directement à la troisième place et aussi avec un trophée.
Avec un trophée, donc, David Luiz.
Oui, il y avait des images quand même assez poignantes, Annie, à la fin de ce match. On l'a vu s'enlacer. Bras dans les bras avec Gonzalo Higuain, l'Argentin, alors que les deux mêmes hommes s'étaient retrouvés au cœur d'un conflit, enfin d'une petite bagarre de vestiaire comme ça peut arriver, ou d'entraînement.
Exactement.
Avant le match,
heures.
Avec une tension. Mmh. Et je trouvais que cette image, franchement, moi, c'est une des images que j'ai appréciées, quoi. Voilà, c'est sur. J'ai retenu ça aussi, quoi. Je trouvais que c'était bien, voilà.
Parce qu'effectivement, dans le stress d'une préparation de finale, on peut.
Sarri avait quitté d'ailleurs l'entraînement à cause de ça.
On avait vu ces images.
Voilà.
Où
et là, ils ont fini les bras
l'un dans l'autre.
Franchement, je trouvais que c'était très sympa.
Mais Sarri aussi avait l'air extrêmement soulagé.
Il peut aller à la Juve maintenant, oui, c'est sûr, il est soulagé. Ouais. Non, mais il a une saison difficile, Sarri.
Ah, oui, il a failli être viré en cours de saison.
Oui, non, mais il y a eu ce fameux Sarri bashing dont on parlait dans l'émission, beaucoup critiqué sur des choix, alors que finalement, il fait une saison absolument incroyable, mais on n'avait pas envie de lui laisser le temps, apparemment. En tout cas, il y a un de nos auditeurs qui écrit, Eli Camona, dit, comme souvent cette saison, c'est pas l'équipe qui commence bien la rencontre qui gagne, seuls les réalistes rigolent à la fin.
Il a raison. Franchement, c'est une bonne remarque. C'est pertinent. Parfois, c'est des équipes qui vous donnent l'impression de démarrer sur les chapeaux de roue, qui ne valident pas leur temps fort, et ensuite elles sont comme un boa qui absorbe sa proie. Elles sont finalement rattrapées par finalement la solidité de l'équipe adverse. Et puis tout à l'heure, Sega parlait à juste titre d'attaque clinique. C'est un peu ce qui s'est passé du côté de Chelsea, c'est-à-dire qu'ils ont été efficaces dans la surface, dans la zone de vérité.
Ouais, première mi-temps, ils les ont observés, et puis après on a vu effectivement le
ils n'ont rien laissé au hasard, si je peux me permettre.
Ouh là là.
Et aujourd'hui, ils sont dans le jardin d'Éden avec cette belle coupe.
Oh là là.
En tout cas, certains de nos auditeurs sont très tristes pour Arsenal. Je lirai la réaction de Na Daba qui dit « Je suis triste, très triste pour mon Arsenal. Je suis maudit cette année, Annie, Barcelone. Et voilà maintenant Arsenal. » Ah oui. Et oui, Daba qui est à Pala, au Tchad.
C'était pas la meilleure combinaison pour Daba, mais il y aura sûrement des années meilleures.
Quand vous avez Messi, mon cher Bala, il y aura des jours meilleurs. Incroyable.
Oui, ça devrait revenir. Ces gars, il y a quelqu'un qui vous écoute aussi, un compatriote, Mohamed Al Diallo, qui dit félicitations, mon club préféré, les Blues. Et puis, je salue toute l'équipe et particulièrement Sega Diallo.
Merci.
Les ondes se déplacent, on sait où vous êtes ce soir.
L'émission est beaucoup écoutée en Guinée. Oui. C'est vrai.
Bon, eh ben, on est très heureux. Donc voilà pour ce qui est. Un petit bye-bye. Eh ben, alors, Eden Hazard qui va partir au bout de 7 ans. Mais il y avait aussi les larmes touchantes ce soir. Une autre image peut-être, Nabil. C'est celle de Petr Cech.
Oui, pour qui c'était le.
Alors
le
lui qui a été longtemps joueur à Chelsea, qui était passé du côté d'Arsenal et qui a passé une très mauvaise soirée parce qu'il a quand même encaissé 4 buts.
En même temps, bon, il n'est pas gâté avec la défense qu'il avait devant lui, mais c'est sûr que c'est une équipe qui prend des risques. Voilà, c'est aussi une carrière absolument, vous avez raison de le rappeler, monumentale.
Je crois que c'était 181e match officiel.
Voilà, pour un garçon qui est passé aussi par Rennes en Ligue 1, qui a ensuite fait Chelsea, puis Arsenal, et puis qui a été un des hommes forts de sa sélection nationale, si je ne dis pas de bêtises, la République tchèque.
Oui, voilà. Je crois que c'est 781e.
Pardon, 700, oui, 181, ça serait ridiculement petit.
Me semble-t-il, oui.
Excusez-moi, oui, effectivement. Petr Cech, c'était un gardien un peu emblématique dans le football anglais, on peut dire, Sega.
Oui, et puis il dégage un respect et une image depuis son accident avec cette protection-là.
Oui, c'est vrai que c'était le gardien au casque.
Il a cette expression corporelle un peu particulière quand il se détend avec le bras qui pend un peu sur le côté, mais il est vif.
C'est marrant parce que c'est peut-être aussi parce qu'il est tchèque, parce qu'il porte ce casque, parce qu'il est il est grand, tous les gardiens sont grands, mais lui il est particulièrement impressionnant. Il a un petit côté joueur de hockey sur glace dans la manière de fermer les intervalles sur ses côtés comme ça. Et c'est vraiment un gardien qui restera typique de la première ligue.
Oui, voilà.
C'est pas un gardien qu'on aurait vu forcément au Barça ou dans un club italien, mais là vraiment il a le style du gardien un peu à l'anglaise, à l'ancienne, quoi. Et il s'est fondu dans ce moule là et encore ce soir, je répète, il a fait quand même des arrêts avec la main en tendant la main, en sortant la balle là où il fallait, c'est-à-dire en ne se contentant pas de la repousser, mais en l'écartant de l'axe du but. Bon, tout ça, c'est vraiment le savoir-faire d'un grand gardien. Maintenant, il n'avait plus la tonicité d'il y a quelques années. Oui. Hein. Il faisait un peu
dire
son âge.
Comme Buffon, il était en train de faire le combat de trop, là.
Pas tout à fait, mais ça, il fallait pas qu'il en fasse un ou deux en plus, quoi. Buffon, c'est un peu plus flagrant, quand même.
D'accord.
Nabil.
Mais Buffon était quand même, dans ses meilleures années, un plus grand gardien que Petr Cech aussi. Oui. Enfin, tout est relativisé.
Tout est différent. Et donc, voilà, c'était pour évoquer cette finale de Ligue Europa qui s'est déroulée ce soir à Bakou, dans un stade qui finalement n'était pas plein, qui avait à peu près 15 à 20% de places libres, mais. Ces places étaient très très chères et donc
pas à Bakou.
Non, c'était pas à Bakou.
Elles étaient pas du tout à Bakou, c'était ça le problème.
Il manque les rires enregistrés là.
Mais
il y a Didier Drogba, David Brocouet, qui s'est manifesté sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, Didier Drogba, trop heureux, n'est-ce pas, pour fêter avec les Blues, donc vainqueurs ce soir du côté de Bakou. Et justement, de Didier Drogba, on va passer à l'Afrique. On va passer un peu aux derniers échos de ce qu'on a pour la préparation de la CAN, parce que ça arrive bientôt. Nabil, qu'est-ce que c'est que cette musique? Une petite colle?
Majorette, non? Moi, j'en sais rien, moi.
Ça pourrait.
La soupe au chou?
Non. C'était l'hymne de la CAN.
Ah, d'accord.
La CAN 72.
En 1972. Ah, oui, alors c'était il y a très très longtemps, hein, je vous épargnerai.
Ah, ouais.
Je comprends que vous la connaissiez pas. Non, mais ce qui est amusant, c'est que c'était une CAN en 1972 au Cameroun.
Oui, ah oui, d'accord.
Et qui, alors évidemment, le Cameroun, qui va remettre son titre en jeu bientôt en Égypte, puisque les joueurs qui sont dans la sauce, vont en Égypte dans moins d'un mois, comme tout le monde. Mais pour la petite histoire, parce qu'il y a une histoire petite derrière la grande, c'est l'histoire de cet hymne a été composé par, allez, je vais dire à ceux qui savent déjà,
Manu Dibango.
Voilà, Dibango qui avait gagné un concours, en fait. Et le jour de ses 80 ans, c'était le 12 décembre 2013, il était venu sur RFI, il était venu nous raconter l'anecdote, parce que vous allez voir, l'anecdote est savoureuse.
Il y avait un appel d'offres pour faire l'hymne de la 8e Coupe. Et bon, j'ai gagné cette offre-là, le ministre, tout ça. On m'a envoyé en France pour enregistrer l'hymne. Mais comme il faut une face B, les meilleurs, parce que c'est là personne compte dessus, y compris le compositeur d'ailleurs. Je l'ai fait parce que c'est un morceau que j'avais remarqué que quand je le répétais, les mômes, ils aimaient ça, quoi. J'ai dit pourquoi je le mettrais pas en face B. Alors, voilà.
Bon, ça, Nabil, vous connaissez mieux.
C'est Michael Jackson, non?
C'était la phase B.
Ah, d'accord.
C'était la phase B, justement, de Manu Dibango.
Quoi, quand on trouve un vieux 45 tours, faut toujours écouter les deux faces, on peut avoir une bonne surprise.
Ouais, donc maintenant qu'on recommence à les vendre et à les collectionner sur les dans les brocantes, dans les vide-greniers, tout ça, on arrive à retrouver ces chansons. En tout cas, voilà, c'était Manu Dibango, donc, pour introduire ce sujet autour de la CAN. La CAN avec, la dernière équipe avoir publié sa liste, c'était aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Oui. La Côte d'Ivoire qui déjà se prépare, puisque elle se regroupera en plus pas très loin de Paris, ça sera à Chantilly dans le nord de la France dès le 31 mai, donc après-demain, en banlieue parisienne. Alors il y aura un match aussi une semaine après, un match de préparation.
Donc c'est à Chantilly, on aura la crème des joueurs ivoiriens alors. Ah.
J'ai vu son sourire.
Je m'attendais à pire, moi, c'est marrant.
J'ai vu son sourire, je me suis dit, Nabil, évidemment, il va avoir une petite plaisanterie. Alors, sur cette liste, est-ce que la liste, d'abord, elle n'est pas encore de 23 joueurs, ces gars, ils se donnent du temps, elle est de 27 joueurs, cette liste de la Côte d'Ivoire?
Oui, ils se donnent du temps, mais sauf qu'il prend une décision importante d'entrée en éliminant Gervinho. Il explique ça par le fait qu'il
va l'entendre, le sélectionneur.
Voilà. Donc c'est la principale information sur cette liste. Il élargit quand même pour se donner le temps, mais on sait la tendance, ce qu'il va.
Les autres joueurs ivoiriens attendus sont sur la liste.
Oui, pratiquement tous. Il y a aussi Boni, je pense.
Wilfried Boni
est sur la
sûr.
Liste. Oui, voilà. Oui, absolument.
Est-ce qu'il restera à la fin?
On peut déplorer quand même l'absence de Gervinho. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Il n'était plus rappelé depuis un certain temps.
Il y a un certain Johan Boli aussi.
Johan Boli, qui joue en Belgique. Qui joue à Saint-Tron, qui a fait une belle saison. Qui est un jeune attaquant. Le
fils de Roger Boli.
Fils de Roger, absolument.
Historique de Lens.
On a remarqué donc qu'il n'y avait pas Eric Bailly, qui n'est pas remis de sa blessure. Mais donc ça, c'est une grosse perte en défense.
Oui. Mais
il y a par contre Cheikh Camara, le défenseur du Wydad Casablanca, qui a marqué lors de la finale aller. Mais il n'y a pas au milieu un joueur qui était un petit peu attendu. C'est Fousseni Koulibaly, le milieu défensif de l'Espérance de Tunis qui a aussi très été bon très bon, qui a marqué lui aussi, et que bah, pour une logique de groupe, a dit le sélectionneur, il n'a pas été retenu. Bon, mais sinon, pas de grande, grande surprise.
On va l'entendre, le sélectionneur Ibrahim Camara, justement, évoquer son choix et expliquer pourquoi Gervinho ne fera pas partie de son groupe pour la CAN en Égypte.
Il y a deux mois, j'étais le premier à dire que Gervais fait de bonnes choses dans le championnat italien. Il a continué sur sa lancée. Je suis le premier content. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire que, en ce qui concerne les joueurs de couloir, on a la chance d'avoir des joueurs de très grande qualité. Mon choix a été difficile. Mais je ne peux pas empiler des joueurs de même profil. Aujourd'hui, j'ai des garçons comme Nicolas Pepe, Zaha, Cornet, Gradel, et même Roger, qui peut être un joueur d'appoint, mais qui a fait une saison pas mal. Donc c'est juste un problème de choix et d'équilibre. J'aurais aimé sélectionner tout le monde, mais j'ai pas la place pour tout le monde. Moi, j'ai une réflexion plus globale de ma mission, c'est-à-dire que celle d'avoir des résultats dans l'immédiateté, mais en même temps de me projeter sur l'avenir. J'ai pas de cadeau à faire à personne, donc j'ai opté pour le choix de ne pas amener beaucoup d'expérience dans les couloirs, mais voilà, c'est un choix.
Ce qui surprend peut-être ces gars, c'est par rapport à la saison qu'il fait actuellement sous le maillot de Parme en Italie, où en Serie A il a marqué, où il a parfois été décisif, et en plus il avait l'air d'être son expérience quand même est très importante au niveau de cette équipe.
Sportivement, ça ne se justifie pas. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui ont émergé, comment ils s'appellent,
Pepe et Zaha,
mais sur le vécu et sur l'état de forme actuel, on ne peut pas justifier de ne pas le mettre même dans les 27. Je pense que il y a un problème entre Camara et Gervais. Gervais a une forte personnalité, il exprime, il réclame, et donc je pense que pour le coach, aller à la CAN avec un joueur qu'on n'est pas certain de titulariser, voilà, le mettre sur le banc, il n'assume pas de pouvoir dire à Gervais, sur match-là, tu vas pas commencer.
Ouais, mais après, c'est des choix, je suis d'accord, voilà. Mais donc obligé, en même temps, il prend ses responsabilités, parce que s'il vaut mieux pas lui faire croire qu'il va le faire prendre pour ensuite l'éliminer s'il le met dans une liste élargie, au moins, ça le mérite de la transparence. Mmh. Ensuite, effectivement, il y a des talents qui ont émergé du côté de la Côte d'Ivoire, il peut y avoir une transition générationnelle, mais il aurait pu aussi avoir un rôle de grand frère. Est-ce que lui était prêt à l'accepter, ça j'en sais rien, j'ai pas l'information, mais ce qu'on sait de Gervinho, c'est que c'est un joueur qui peut jouer à tous les postes, à droite, à gauche, dans l'axe, et parfois il faut du caractère, de la personnalité et de l'expérience pour gagner ce genre de compétition.
Et lui, il en a beaucoup. Une chose intéressante à noter, Patrick Juillard, c'est que cette équipe de Côte d'Ivoire, elle doit rencontrer les Comores le 7 juin pour un match de préparation
à Boulogne-sur-Mer. Oui.
À Boulogne-sur-Mer. Alors ce qui est amusant, c'est les Comores qui aujourd'hui allaient se défendre devant le tribunal arbitral du sport, le TAS, puisqu'ils espèrent encore participer à la Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, puis ils ont déposé une requête effectivement contre la CAF, demandant à celle-ci d'appliquer la lettre de son règlement prévoyant l'exclusion des équipes qui défaillent à organiser l'événement. Donc, ce qui est le cas du Cameroun qui s'est vu retirer l'organisation. Et la CAF avait elle-même précisé qu'elle n'appliquait pas son règlement à la lettre par égard pour le Cameroun. Les Comores réclament l'application de ce règlement qui, s'il était appliqué au jour où le Cameroun s'est vu retirer le tournoi, permettrait aux Comores de se qualifier. Ouais. On attend de voir maintenant. L'audience s'est tenue, d'après mes informations. Amir Sadi était sur place pour défendre la cause des Comores.
On a communiqué avec lui aussi.
Et on ne sait pas encore, évidemment, le verdict. On l'aura dans quelques jours.
Voilà,
je pense.
Ils savent que, évidemment, la compétition commençant prochainement, effectivement, il pourrait y avoir une décision très prochaine à ce sujet. On va évoquer le cas de Neymar, capitaine déchu de la Seleção du Brésil. Et on se retrouve juste après ce petit débat que nous avons eu dans l'après-midi avec Dominique Sévrac, Philippe Doucet et avec Bruno Constant. La petite voix de Neymar. Neymar qui n'est plus capitaine de la Seleção. Le joueur a pourtant devancé l'appel de cette Seleção, officiellement avec l'accord du PSG, mais pas avec l'accord de Tuchel. Et il a débarqué à l'entraînement de la Granja Comari, c'est au nord de Rio, au-dessus de Rio, dans la montagne. Il est arrivé en hélicoptère.
Oui, c'est simple.
Pour participer très bel endroit, oui. À l'entraînement.
On fait souvent ça, nous, à RFI, on arrive en hélicoptère, très tranquille.
Quand on gagne 20 millions d'euros par an, on peut se payer un hélicoptère pour monter à la montagne. Bon, mais avant de parler du brassard quand même... Dominique, vous êtes inquiet. Il se serait blessé hier autour du genou. On dit que c'est pas grave, mais il y a tout de suite eu IRM, traitement. Il est au repos.
Pour une fois qu'il se blesse avec le Brésil et pas avec le PSG, je suis pas du tout inquiet, moi. Hein. C'est bien. Ils vont pouvoir le soigner. Le staff, il y a pas à appeler le staff du PSG.
De toute façon, le docteur Lasmar est à son chevet.
Voilà.
Déjà.
Donc de toute façon, le PSG n'a pas le droit de le soigner. Donc là, il est avec le Brésil, donc il s'en occupe de la pépite. Hein. Là, on est bien. On est très bien. Il n'y a pas de match avant le 6 août.
Une autre question.
De toute façon, il est suspendu. Vous savez, il est suspendu pour le trophée des champions parce que à cause de fameux poussade dans les dans la montée du Stade de France qui va amener.
Mais Dominique, une question quand même. Ce joueur, on se souvient quand il était à Barcelone, il se blessait peu. On a l'impression qu'il se blesse plus. Il n'a que 27 ans, c'est ça? 27,
alors, 28. Oui, il a fêté 27, ses 27 ans en rouge, tout habillé en rouge avec son sponsor.
Récemment.
Avec un sponsor. Parce que là aussi, c'est simple. Les anniversaires sont sponsorisés. Comme le vôtre, Annie, souvent. Hein.
C'est plus discret.
C'est plus discret. Il y a moins de photos sur les réseaux sociaux. Et il se blesse plus, bah peut-être que à force son hygiène de vie qui n'est pas connue pour être la meilleure du siècle, parce que à Barcelone aussi la presse locale qui est très bien renseignée racontait que Neymar est un garçon festif, un garçon qui sort, et que peut-être que l'accumulation, et à Paris je peux vous dire que le phénomène n'a pas freiné, on pourrait même dire que le phénomène s'est accéléré.
Paris et les Brésiliens, c'est toujours un peu compliqué sur le plan de l'hygiène de vie.
Et Neymar aime la vie, et alors ça moi je pas lui reprocher, hein. je suis moi-même un bon vivant, mais voilà.
Moi, je vais pas au foot. Bah,
c'est-à-dire que moi, j'ai pas 36 millions d'euros par an pour aller être un ballon d'or, quoi. Donc lui, il est parfois pas couché à minuit, quoi, comme dirait Giroud.
Philippe, vous trouvez aussi que en ce moment, on a l'impression quand même que Neymar est plus fragile, peut-être?
Bon, alors c'est vrai que les deux blessures choquent. Qu'il a eu sont des blessures qui relèvent a priori plutôt de l'accident qu'autre chose, parce que la fracture du métatarse, c'est pas vraiment une blessure liée à l'hygiène de vie, en tout cas, c'est pas des claquages répétés derrière aux ischios ou autres, c'est pas ce genre de blessure qui le touche. Néanmoins, oui, je pense qu'on peut dire avec une relative certitude qu'il est un tournant de sa carrière. Il arrive à 27 ans. On a connu des Stevie Gerrard, des joueurs comme ça, qui ont fait des choix drastiques à un moment de leur carrière. Sinon, ils seraient basculés vers quoi? Vers un joueur qui se blesse tout le temps et qui donc fait évidemment pas la carrière qu'il doit faire. Alors lui, il a eu des coups de malchance. Les deux blessures vraiment avec le Paris Saint-Germain sont des vrais, véritables coups de malchance. Mais de fait, à 27 ans, s'il ne redresse pas son style de vie, s'il ne se consacre pas à ce qu'il fait quand même de mieux au monde, et c'est un joueur absolument merveilleux, Neymar, on n'en parle pas assez, on ne dit pas assez à quel point c'est un joueur merveilleux, mais s'il ne fait pas les efforts nécessaires, non seulement, je crains même qu'il n'ait même pas la carrière de Ronaldinho, si vous voulez, qui lui-même a eu des sautes dans sa carrière, a eu des hauts et a eu des bas également, mais qui a eu quand même des très hauts. Et j'ai peur pour ce joueur, Neymar, comme il a déjà 27 ans, ne voudrais vraiment pas qu'il passe à côté du talent fou qu'il manifeste sur le terrain. Ce serait un grand dommage. Donc, alors je sais pas comment on peut faire, on va pas faire une chaîne de solidarité pour amener Neymar à changer, mais j'aimerais qu'effectivement il y ait un moment des gens qui pèsent autour de lui pour lui faire se rendre compte que s'il veut exprimer son talent et être le numéro un mondial, ce qu'il devrait être bientôt forcément, compte tenu du fait que Messi et Ronaldo ont leur âge, il faut qu'il fasse quelque chose, parce que sinon il passera à côté.
Bruno?
C'est ça, ça fait presque 10 ans qu'on dit que c'est un phénomène, et c'en est un, je pense que c'en est un, comme l'était Ronaldinho, mais le problème c'est que ça vient toujours
ça
pas, quoi. C'est par intermittent, c'est qu'à un moment donné il faut qu'il se pose les bonnes questions, et si Messi et Ronaldo sont aussi forts et aussi fort sur la longévité, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une hygiène de vie qui l'accompagne.
Alors peut-être que Thomas Tuchel, il a trouvé la réponse. On l'a entendu sur la chaîne Eurosport, à côté de Boris Becker, évoquer le cas. Alors sans parler de la blessure, mais en tout cas en parlant de son joueur phare du Paris Saint-Germain.
Neymar a une grande confiance en lui. Il a beaucoup de cœur et de générosité. Mais s'il ne se sent pas aimé, il ne sera pas en mesure d'exploiter pleinement son potentiel. Il prend parfois les choses trop à cœur.
Chaque Je sais pas comment on dit amour en allemand, mais en tout cas, est-ce qu'il manque d'amour au Paris Saint-Germain ou en France?
Je sais pas. Il a une relation compliquée avec les supporters, par exemple.
C'est Das Lieb, d'ailleurs.
Pardon?
C'est Das Lieb, mais bon, c'est pas grave.
Ah oui, pardon.
C'est me semble.
Et donc, non, il a une relation compliquée avec la
presse.
Il
a essayé d'avoir cette relation très.
Après, il a une vie, quoi. Il a une vie démesurée. Il peut pas vivre comme Monsieur Tout le Monde. Il a pas la vie de Thomas Meunier, par exemple, qui va dans des expositions, admirer des tableaux. Là, lui, il peut pas sortir de chez lui. C'est une star planétaire. Il discute avec Jay-Z et Beyoncé. Il est pas.
Et Rihanna.
Donc, c'est compliqué de se mettre à sa place. Après, qu'un joueur ait besoin d'affectif pour bien fonctionner, c'est ce qu'on dit de tous les joueurs. Les joueurs marchent à l'affect. Et donc, je connais pas de joueurs qui n'aiment pas ça. Donc l'explication de Thomas Tuchel.
Je crois que Roy Keane ne fonctionnait pas. À
oui, mais c'est l'exception qui confirme la règle.
Il aimait pas les autres en tout cas.
Il n'était pas brésilien. Les Brésiliens, ils aiment bien ça. Mais Dominique, le fait que le sélectionneur les déchargeait peut-être du rôle de capitaine, il l'a été, il l'avait arrêté. Tite est pas très clair aussi. Hein. On se souvient de la Coupe du Monde où il avait des capitaines tournants. En plus, il donne ça à son copain qui est Dani Alves. Est-ce que finalement, c'est pas presque lui rendre service, admettons qu'il joue normalement la Copa América, parce qu'il y a ce poids sur les épaules. On se souvient de 2014, il était là pour la Coupe du Monde. Alors, il se blesse avant le fameux 7-1. Mais
il l'a assumé, par exemple, avec les Olympiques, où là, il s'occupait de tout.
Exactement.
Il était champion olympique avec son
bandeau.
Mais
on sait que c'est pas le même poids sur les épaules.
Jésus. Bah, il avait surtout le bandeau Jésus,
comme en Ligue des Champions.
Qui posait pas de problème, visiblement. Le prosélytisme ne pose pas de problème au Brésil. Mais est-ce que ça va lui enlever la pression? C'est surtout, moi je trouve que.
Il aura toujours la pression.
Déjà, ça raconte que l'affaire n'a pas été traitée pareil en France qu'au Brésil. Les Brésiliens sont beaucoup plus choqués, l'opinion publique.
Ils l'ont traité beaucoup d'enfants gâtés, mais il a un problème aussi d'image avec les supporters.
En France, on l'a excusé un peu. Genre, le supporter est un débile qui cherche le buzz. Donc nous, on l'a un peu excusé. La fédération lui a mis 3 matchs de suspension.
Est-ce que c'est vraiment l'unique raison pour laquelle Tite lui enlève le brassard?
Au-delà de ça.
Oui, parce que moi, j'étais au Brésil à ce moment-là et on a beaucoup parlé de l'enfant gâté, de Neymar qui doit être exemplaire en tant que capitaine.
Au Brésil, c'était terrible.
Et à tel point
je trouve la sanction un peu disproportionnée.
Les commentateurs exigeaient tout de suite qu'on lui enlève le brassard.
Si Lloris fait ça, je crois pas que la France va se mettre vent debout pour dire il faut enlever le brassard de capitaine à Lloris.
Le problème, c'est que Tite avait enlevé.
T'es vraiment sûr?
Ah oui, je suis vraiment sûr. Mais je pense qu'il y a un problème du Brésil avec Neymar.
Mais non, mais le Tite justement avait à un moment pas convoqué Douglas Costa, le joueur de la Juventus, parce qu'il avait craché sur je sais pas
un joueur de police.
Voilà. Et donc, tout de suite, il l'avait sanctionné, il ne l'avait pas convoqué, c'était pour un match amical. Et du coup, les gens se sont dit, et alors Neymar, parce que les frasques du père aussi de Neymar qui se bat
lui a enlevé le brassard, on l'a enlevé à Thiago Silva pour lui dire, t'es responsable du 7-1 de la Coupe du Monde, même si t'étais suspendu ce jour-là. mais en tout cas, tu es le responsable de ce fiasco. On trouve des responsables. Là, je trouve que c'est un geste fort d'enlever le capitanat à un joueur. Le capitanat dans une sélection,
et pour ça crée toujours... América à domicile.
C'est une question d'ego, ça crée toujours des bisbis dans un vestiaire parce que tout le monde veut être capitaine. En équipe de France, Evra et Galas, si vous voulez l'être avant Eisner, vous avez vu comment ça a fini. Donc maintenant, le brassard a un poids dans le social et un poids d'image. Je trouve que c'est fort de l'enlever à Neymar.
Eh bien, on verra comment se comportera Neymar, d'abord s'il jouera, cette Copa América qui commence dans une semaine. Et pour ce qui était de la Ligue Europa, nous vous le rappelons ce soir, c'est Chelsea qui a battu Arsenal sur le stade de Bakou par 4-1 et notamment un doublé d'Eden Hazard. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à Radio Foot International
toujours
ce
un plaisir.
Soir.
Merci à vous.
Merci. Merci Sega Diallo. Bon retour vers la Guinée. Puis quand vous revenez vers ici, vous nous faites signe.
Merci.
David Brocco était à la réalisation ce soir. David Finzel, fidèle au poste, m'a aidé à préparer toute l'émission. Et on vous dit à demain. Demain, rendez-vous à l'heure normale pour parler de football comme chaque jour dans Radio Foot International. Merci.